franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Laetitia Gaillet.
Bonjour Patrick.
Réparer la France.
C'est un combat pacifique, écrit Guillaume Goubert dans La Croix. Mais comment réparer cette France morcelée? Le journal donne des mots-clés. Il faut aimer en luttant contre les inégalités, par exemple, dit François Soulages, le président du collectif Alerte, qui regroupe 38 associations du secours populaire à familles rurales. Il faut espérer donner un écho aux initiatives citoyennes. Il faut aussi apaisé. Car cinq jours après le second tour, l'élection présidentielle a laissé des traces dans les familles françaises. Divisées comme le reste du pays, écrit La Croix, elles ont traversé ou elles ont été traversées par de vives tensions. Claire et Bénédicte partagent pas mal de choses, la quarantaine toutes les deux, enfants du même âge et même beaux-parents. « Moi, je suis de gauche », dit Claire, l'enseignante pro-Hamon. Bénédicte, dermatologue, est plutôt de droite. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce repas de famille où Bénédicte annonce qu'elle votera Fillon au premier tour. Ça m'a scié, dit Claire. J'ai trouvé ça réac. Je me suis dit qu'au fond, on ne partageait rien. Serge et Isabelle, jupéistes, ont dû affronter leur fils Étienne, fan de Mélenchon. Il nous a caricaturés et nous a dit des choses très violentes. Résultat, dans cette famille plutôt unie, on a évité de se croiser avant le scrutin et on parie maintenant sur un apaisement post-électoral.
Espérons. La présentation hier de la liste des candidats de La République En Marche est-elle de nature à apaiser?
Alors l'histoire le dira ou pas, mais leur portrait s'étale à la une de l'ensemble de la presse quotidienne régionale ce matin. Ainsi, dans La Nouvelle République, on découvre pour l'Indre Élodie Farman, ingénieure agricole, et Sophie Guérin, adhérente du Modem. Il faut bien le reconnaître, dit le journal, on ne les avait pas vus venir. La Provence présente Corinne Versini, chef d'entreprise, qui aura la dure tâche d'affronter dans la quatrième circonscription de Marseille et Patrick Minucci et Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. Ouest France et Le Parisien aujourd'hui en France optent pour le subtil mélange des connus moins ou pas connus. Connus donc Cédric Villani, le génie des maths, Gaspard Kanzer, le conseiller de François Hollande. Moins connus, Aude Amadou, ancienne joueuse de handball professionnelle, Hervé Berville, économiste de 27 ans. Reste le plus dur pour les novices, écrit Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, convaincre les Français et se faire élire. Les novices, The Guardian et le Washington Post ne remarquent que ça dans la liste. Pour le site Politico, Emmanuel Macron fait tout simplement un pari avec eux.
Pas de pari sur le cas de Manuel Valls, en revanche.
Emmanuel Macron a tranché, il préserve l'ancien Premier ministre, mais il tue ses soutiens, écrit Mathilde Sirot dans le Figaro. Il cherche à limiter son influence. Pas de candidat de La République En Marche en face de lui dans l'Essonne. Un proche amer y voit le baiser qui tue. Il ne lui donne pas les moyens d'exister. Macron sauve la figure de proue après l'avoir émasculé.
Reste que cette liste fut le résultat d'un accouchement difficile.
En politique, c'est bien connu, écrit Hervé Favre dans La Voix du Nord, les difficultés commencent avec les investitures. Première faille, François Bayrou, qui attendait plus de sièges grâce à son alliance avec Emmanuel Macron. C'est une opération de recyclage du Parti Socialiste, la grande lessiveuse. « Je ne laisserai pas faire ça », a dit le maire de Pau à l'Obs. Au QG d'En Marche, on balaye ça d'un revers de main dans Le Parisien aujourd'hui en France. C'est une tempête dans un verre d'eau. Le but était de sélectionner les gens avec le meilleur profil. Un proche de Macron prévient, c'est de la politique à l'ancienne. Nous, on n'adaptera pas nos critères. François Bayrou a déjà suffisamment de circonscriptions gagnables, mais il en veut un peu plus, note un autre dans Les Échos. Leçon du jour, conclut Cécile Cornudet, refonder la politique ne signifie pas s'en épargner les tracas.
Mais la liste des candidats de La République En Marche n'est pas complète.
Il reste une semaine et le Huffington Post explique que si le mouvement d'Emmanuel Macron n'a pas encore de candidats partout, c'est parce que le président a décidé de ménager certains ténors socialistes, mais aussi des ténors de la droite qu'il espère bien rallier, photo de Bruno Le Maire à l'appui. La théorie du Parisien aujourd'hui en France est qu'il veut plus prosaïquement faire imploser la droite. Cette manœuvre ne doit rien au hasard, écrivent Valérie Acot et Henri Vernet. Elle a été mûrement réfléchie et élaborée par Emmanuel Macron lui-même. La preuve par Xavier Bertrand dans le Figaro. J'ai répondu non au ralliement. Mon nom a continué à être évoqué par les équipes de M. Macron pour entretenir le doute. Pendant ce temps, ça permet de discuter avec d'autres. Vous avez devant vous quelqu'un qui a servi d'écran de fumée.
Deux réflexions à tout cela ce matin.
La première vient de Tony Blair. L'ancien Premier ministre britannique signe une une tribune dans Le Monde. Il ne faut jamais perdre, dit-il, la force que nous ont donné ceux qui nous ont portés au pouvoir. Le problème quand on promet le changement, c'est que les gens sont d'accord de façon générale, mais ils ne le sont plus malheureusement quand on entre dans le détail. La méthodologie de la réforme est donc importante et il convient de ne pas confondre stratégie et tactique. L'objectif est gravé dans le marbre, dit Tony Blair. La tactique peut être plus souple. Il faut tempérer la dureté des réformes afin de les rendre réalisables. L'autre réflexion est menée par Philippe Besson, l'écrivain devenu intime des Macron. Dans les Échos Week-end, il décrit le Emmanuel qu'il connaît, abusant de références au Toton Flingueur, film qu'il révère. Il subsiste chez lui, selon Philippe Besson, une part de lui-même qui est toujours éberluée par le résultat. Quelle sera sa capacité à agir ? En attendant la réponse à ces questions qui fâchent, dit l'écrivain, restons sur l'image du jeune homme parti à l'abordage. Quoi qu'on pense de lui, il démontre qu'il s'est passé quelque chose. Il porte la promesse que rien ne soit plus comme avant.
Le pouvoir de l'image, il est aussi abordé dans un autre registre par Charlotte Gainsbourg dans le magazine M du Monde.
Les fantômes d'Ismaël, film d'Arnaud Desplechin, dans lequel elle a joué, fera l'ouverture du Festival de Cannes. Elle n'aime pas son image vieillissante, Charlotte. Elle, qui a toujours paru jeune, a vu ses traits se creuser. Si je n'ai plus ma jeunesse, qu'est-ce qu'il me reste ? Charlotte Gainsbourg raconte cette jeunesse. À l'école, mes parents étaient fréquemment insultés, ma mère était une pute et mon père un drogué. Dans les années 70-80, c'était un cauchemar. Aujourd'hui, mon père est devenu intouchable. Ce père qu'elle aime plus que tout l'a fait tourner dans Charlotte Forever. C'était compliqué, il était sous en permanence. Je me transformais en flic sur le tournage. L'héritage du père et de la mère lourd à porter, il reste le bonheur modeste pour Charlotte Gainsbourg de se retrouver dans un film américain avec l'assurance d'être là pour ses seules qualités. Pour les films français, le doute subsiste toujours. L'impression de bénéficier d'un passe-droit, comme si elle était la fille d'une famille royale. Charlotte Gainsbourg, une actrice qui ne se regarde pas, mais qui s'écoutera tout à l'heure chez Augustin Trapenard dans Boomerang, évidemment.
Merci à vous, Laetitia Gaillet.